Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse. Nous aussi, nous sommes en place avec au studio Jean Oulo Polorini de Canal D. Bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux confrères en studio et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
Confrère Don Magloire Teko Kevi de Flambeau, bonjour.
Bonjour à toi, Sas Gaou. Bonjour, chers confrères, et bonjour, Canal FM.
Il y a aussi Kossi Lomati Tchogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour, Sas. Bonjour, Canal FM. Bonjour à tous les confrères en studio.
Et puis, il y a aussi et surtout le Tchodjo, Michel Sarakawa Balo Tchadja de Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour Sas. Bonjour à nos confrères. Bonjour à mon homonyme Michel derrière la belle vitre. Et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement.
Merci. Derrière la vitre, effectivement, c'est Vitob Koku Michel Tomega qui a retrouvé 10 doigts depuis hier. Seul, mais il fait le travail de deux. Et c'est bien, Michel, quand nous disons bien, c'est que tu dois faire mieux, n'est-ce pas? D'autant plus que le sage nous dit aujourd'hui, lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Encore une fois, lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Et Elam Kossi, le génie, c'est de transformer tous ceux-là qui, au départ, apparaissent comme tes opposants. Il faut faire en sorte qu'à la fin, tous deviennent tes admirateurs.
Oui, effectivement, c'est en cela qu'on est appelé à être un vrai leader, parce que c'est vrai que le leader ne reçoit pas forcément l'assentiment de tous par rapport à ses actions, à ses initiatives, mais à l'arrivée, c'est le résultat qui compte. Et donc, il faut que ceux qui ont quand même eu l'audace de critiquer, de porter un regard contraire à ce que tu es en train de faire, puissent à l'arrivée te dire que oui, le résultat est important.
Merci, j'ai parcouru vos journaux aujourd'hui. Vraiment, je vous tire chapeau. Les sujets sont riches et variés. Malheureusement, nous n'avons que 60 minutes pour les débats, 20 minutes supplémentaires avec les auditeurs. On ne pourra pas tout aborder, souffrir l'arbitraire de celui qui choisit les sujets les uns après les autres. Sujet numéro 1, c'est la fin du CEPD aujourd'hui, le tout premier diplôme scolaire du Togo. Magloire et ton journal Flambeau vous rappelez cela.
Bien évidemment, vous savez que nous sommes presque à la fin de l'année scolaire. Les examens de fin d'année ont démarré par le probatoire et le CEPD suit, n'est-ce pas, cette semaine. Les épreuves ont démarré naturellement mardi dernier et prennent fin aujourd'hui. Dans l'ensemble, on peut donc se réjouir que tout va bien normalement et on espère que les résultats seront à la hauteur des efforts des uns des autres.
Merci. Un total de 207 317 élèves du CM2, dont 101 467 filles et réparties dans 1344 centres d'écrit un peu partout. Bonne fin de l'examen du CEPD et bonne chance à ces futures étudiantes et étudiants. Les étudiants, généralement, c'est après le bac avec un minimum de 17-18 ans. Mais je découvre à la page 4 du journal Canal D qu'il y a des bébés étudiants ici au Togo. Jean Oulo.
Oui, en effet, il y a des bébés étudiants. Excusez, c'est une figure de style. Juste pour aborder un fait, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que pour accéder aux cours dans les amphithéâtres à l'Université de Lomé, il faut avoir un minimum le bac, mais il y a ces bébés-là qui arrivent à suivre les cours, bon gré, mal gré. Mm-hmm. Ils s'imposent même. C'est pour parler de ces jeunes filles qui, pendant les cursus scolaires, parfois chopent des grossesses, mais qui sont contraintes de continuer les cours à l'Université de Lomé. Et parfois, elles sont obligées, n'ayant pas de garde à la maison, n'ayant personne à qui confier la garde de leurs enfants, sont obligées de venir avec les enfants dans les amphithéâtres, ce qui fait que de facto, ces bébés deviennent des bébés étudiants qui étudient au même titre que les autres, même s'ils ne prennent pas les cours, ils ne prennent pas les cahiers, ils assistent aux cours et parfois, il y a un peu de bruit, ce qui fait que certains étudiants sont parfois dérangés par ça, mais d'autres sont obligés d'accepter parce que la jeune fille en question n'a pas de choix. Et il y a certains professeurs d'université qui interdisent cela, mais d'autres sont compréhensifs et permettent que ces jeunes filles continuent de suivre les cours. C'est un fait que nous relevons parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par réfléchir à une alternative. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui une crèche, une garderie au sein de l'université de Lomé? Ce n'est pas un encouragement pour que les jeunes filles chopent des grossesses, continuent de tomber enceintes, mais c'est pour dire que la grossesse aujourd'hui ne peut pas empêcher une jeune fille de continuer ses études et de mettre en place les conditions qu'il faut pour que cela continue.
Le phénomène des bébés étudiants qui étudient au dos de leur maman, Michel, ça nous fait faire un parcours. Il y a quelques dizaines d'années, dès qu'une fille tombait enceinte, elle était presque automatiquement exclue du système scolaire. Mais maintenant, nous avons des élèves des lycées et collèges qui vont à l'école. Le ventre rebondit. Certaines réalisent la prouesse même d'accoucher en plein examen du bac 1 et du bac 2, peut-être même du CPD. La dernière fois, j'ai appris qu'au Bénin, une candidate au BPC a accouché également. En plein examen. Et puis, il y a ce phénomène des bébés étudiants dont nous parle Canal D. C'est une évolution des mentalités.
Ah oui, et il faut qu'on encourage cela parce que c'était pas bien des jeunes filles, comme Jean le dit, choper une grossesse et puis bon, c'est la fin de la récréation, quoi. Donc, c'était une discrimination, à mon avis. Et aujourd'hui,
négative.
Et aujourd'hui que les autorités, en tout cas éducatives à un niveau donné, ont compris qu'il fallait passer par là. Et en avril passé seulement, moi j'allais à Kara de Lomé à Kara, j'ai pu observer deux élèves comme ça, en état de grossesse, mais qui allaient à l'école. Mais ça m'a fait chaud au cœur parce que si elles ont vraiment cette volonté de continuer, de poursuivre les études, vraiment que la société les aide. Comme Jean le dit, mais les étudiantes, là, vraiment, il faut quand même que leurs collègues étudiants soient compréhensibles, comprennent à un moment donné que peut-être pour certaines, c'est arrivé, elles ne le savaient pas. Et donc, il faut qu'on leur donne la chance de continuer ses études. Et qui sait, parfois certaines émergent. Moi, je connais quelqu'un qui est allé jusqu'à la licence à l'université. Elle a chopé la grossesse quand elle était en classe de terminale. Elle a accouché, elle est allée au bac, elle a réussi, elle a continué ses études. Mais j'ai été très
merci. Les mentalités, les habitudes évoluent. Les filles peuvent toujours continuer l'école. En ayant une grossesse, en ayant un enfant, c'est une bonne chose. Sauf que l'homme, il ne faut pas en abuser. Il faut que les filles comprennent qu'elles doivent laisser leur organisme se développer, atteindre la majorité pour leur propre corps. Et puis un enfant, ça a son prix. Toi qui es parent d'élève, tu en sais quelque chose.
Oui, effectivement. Vous savez, un enfant, c'est toujours des charges. Et quand on commence le jardin, l'école primaire, c'est pas encore grand-chose. Hein. Mais quand vous commencez le collège, le lycée, jusqu'à l'université, vous ressentez tout de suite le poids. Donc, c'est l'occasion de rappeler cette prévention des grossesses en milieu scolaire, parce qu'il faut le dire, il faut accentuer la prévention des grossesses en milieu scolaire. L'école, c'est d'abord la discipline, etc. Et puis voir dans quelle mesure il faut réintroduire les cours sur la santé reproductive pour les adolescents. Parce que je pense que ça fait défaut également dans plusieurs écoles. Les gens ne sont pas véritablement très informés par rapport à l'éducation sexuelle. Parce que ce qui manque à la maison, il faut qu'au niveau de l'école, on puisse leur donner. Moi, j'ai eu la chance de faire ça à la santé reproductive des adolescents. Quand j'étais au collège, on faisait ça régulièrement. Chaque semaine, on avait un cours dessus. Donc, je crois que ça doit revenir. Mais ça, c'est à l'initiative de l'établissement, parce que c'est un établissement privé. Et je crois que c'est très important. Ça nous a permis de savoir exactement ce qu'on appelle une éducation sexuelle.
Merci. Tu disais que on ne peut pas encourager les filles. C'est vrai, on doit les sensibiliser, mais la pression doit être sur nous les hommes. Ah, moi, oui. Je préfère vraiment qu'on accepte.
C'est les hommes qui mettent les filles enceintes.
Voilà, c'est nous qui mettons les filles là en difficulté et jusqu'à ce qu'elles ne soient dans ce genre de situation. Et vous voyez les dispositions qui sont prises par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez vu qu'il y a entre-temps, certains confrères ont publié des papiers comme quoi le taux de grossesse a baissé en milieu scolaire. Parce que vous vous rappelez de cette vilaine, en tout cas de ce, je ne sais pas comment dire ça là, il y a cette idée-là qui a circulé pendant de longs moments, comme quoi la chèvre ne broute que là où elle est attachée. Et certains professeurs, certains enseignants s'en délectaient, se prenaient pour, bon,
pour des chèvres.
Pour des chèvres. Et donc, tout ça là, et voilà, ça, on a pris des dispositions. Gare à quelqu'un qui s'aventure sur ce terrain-là et il récolte ce qu'il a. Donc, c'est beaucoup plus vers nous qu'il faut vraiment voir.
Michel, tu as raison. Et Kokoroko manie toujours le bâton. Hein. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'un enseignant d'histoire-géographie qui a enceinté une fille au collège vient d'être interdit dans toutes les écoles primaires, en fait, publiques et même privées du Togo. En même temps, à Zébévi, un jeune garçon de 14 ans a violé sa camarade de classe de 13 ans et la directrice régionale de l'éducation région maritime demande que cet élève passe en conseil de discipline pour dire que la menace sur la jeune fille est toujours là. Deuxième chapitre, c'est la fin du recensement électoral dans la zone 3 hier. Quelle est la suite que va nous dévoiler la CENI? Et nous allons continuer avec une certaine ambiance préélectorale. Le recensement qui a pris fin hier, Canal D nous en parle à la page 2. Fin du recensement électoral dans la zone 3. Et Michel, ton journal aussi nous rappelle que l'opération d'enrôlement des électeurs a pris fin dans la zone 3 hier. Alors, est-ce que la fin de la zone 3 signifie la fin totale du recensement électoral? Je veux évoquer cette demande réitérée par certaines formations politiques, certains milieux qui demandent à la CENI de revenir dans la zone 1 pour offrir une solution à ceux et celles qui n'avaient pas pu se faire enrôler au cours de la phase 1 dans la zone, dans la zone numéro 1. Michel.
Oui, c'est du ressort hein, de la CENI et surtout de son président d'étudier cette possibilité. Parce que nous avons appris au départ que quand on aura fini dans toutes les zones, on va ratisser large. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans ratisser. Bon, c'est ça qu'on va voir.
C'est l'occasion de voir ce
que vous mettez dedans. Parce que ici, nous avons toujours dit, si c'est politiquement, on ne veut pas le faire. Ok, d'accord. Là, ça, c'est les hommes. Mais si c'est techniquement, parce que les gens à Lomé ici, de par le passé, nous avons nous observons les élections depuis, ou les recensements depuis un certain nombre d'années. Depuis le premier jour, le 29, il y a influence. On ne va pas nous dire que certains ont fait la paresse, ils sont restés, c'est les derniers jours qu'ils couraient, donc on peut les laisser. Non, le premier jour même, dans la zone, les gens vraiment étaient mobilisés. Donc, mais la CENI recense ce qu'elle veut ou bien ce qu'elle doit faire. Mm-hmm. Il faut qu'on réponde à ces questions. Sinon, le reste, si c'est politiquement, ils s'organisent de cette façon. Ça fait leur affaire. Mais ce que nous avons vu sur le terrain, c'est que il y a une forte demande. Ce qui, ça fait peur à qui? Ça fait leur affaire.
Mais ça oui, une seconde. Non, je dirais que ce que Michel a dit est très pertinent dans la mesure où les gens ont manifesté véritablement leur volonté d'aller faire établir leur cas d'électeur. Alors, il va falloir quand même qu'ils rentrent, qu'on satisfasse à ce besoin. Moi, par exemple, je suis un exemple, parle pas à Lomé. Durant 72 heures, j'ai pas pu me faire établir ma carte d'électeur. Il a fallu que je me transporte dans la zone 2, chez mes oncles à Koumambala, pour me faire établir ma carte d'électeur. Pas parce que je ne voulais pas le faire à Lomé, parce que j'y étais pendant 3 jours. Les agents recenseurs étaient là, les machines les regardaient, les populations étaient là, mais il n'y avait pas des papiers, de l'encre.
Ma gloire, pour faut... apporter de l'eau voilà. à ton moulin, moi, je me suis fait recenser sur la route de l'aéroport, là.
Mais alors, vous qui vivez à
l'école évangélique du marché de l'Egbacito, c'est là-bas, j'ai l'habitude de me recenser. Mais par rapport aux difficultés, j'ai dû aller me faire recenser au niveau de l'aéroport pour demander le transfert. Vous voyez les difficultés que, qu'on a fait sur le terrain. Donc on ne peut pas donner autre chose. Si c'est politiquement là, d'accord. Sinon,
non, mais... non, le politiquement ne permet mais à personne
de priver. Sinon, ça n'a pas à bon. C'est pourquoi je dis que c'est à eux de répondre à toutes ces questions.
Merci. Voilà. Moi, je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses. Même politiquement, on ne pourrait pas dire qu'on ne va pas proroger. Parce que soyons conséquents envers nous-mêmes. Le recensement a commencé dans la zone 1 avec beaucoup de difficultés. Tout le monde en a été conscient. Et même le gouvernement a reconnu plusieurs dysfonctionnements.
Même
et
le président de la CENI voilà. lui-même.
Et c'est en conseil des ministres que la note est sortie, demandant à ce que le recensement dans les zones 2 et 3 soit reporté pour qu'on puisse essayer d'arranger ce qui n'a pas marché. Maintenant qu'on a essayé de perfectionner les choses, et que dans les zones 2 et 3, ça a été une réussite, on peut le dire ainsi, mais c'est dans l'ordre normal des choses qu'on revient dans la zone 1 et achever ce qui n'avait pas marché. Si aujourd'hui on s'en tient, on dit non, c'est fini, mais honnêtement, c'est que on dit que le bon sens n'a pas besoin de lumière pour être éclairé. Il faut que nous
merci, nous attendons ce que nous servira la CENI et puis nous mettons en même temps le cap sur les élections législatives. Il est annoncé que le Togo devra organiser des élections régionales et législatives au cours de cette année 2023. Même si on n'a pas encore le chronogramme d'activité de la CENI. Et Ouara les vainqueurs fait cet article que je trouve vraiment important et intéressant. Victoire de l'opposition législative, la Guinée-Bissau qui vient de donner une leçon de démocratie. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a connu des élections législatives le 4 juin dernier. Et Ouara les vainqueurs écrit que les dirigeants bissau-guinéens ont laissé les urnes parler. Ces urnes ont parlé et ont déclaré l'opposition vainqueur. Et le président Oumaro Sissoko Embalo s'est engagé à prendre acte et note de la victoire de son opposition aux élections. C'est cette belle leçon que Ouara nous relève aujourd'hui.
Oui, c'est dit qu'en Afrique, c'est difficile d'être au pouvoir, d'organiser les élections et les perdre. Que ce soit les législatives ou les présidentielles, vous avez les moyens de votre côté et vous faites ce que vous voulez. Comme le disait un homme politique, on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est ce que on nous a habitués en Afrique. Mais nous avons voulu parler de la Guinée-Bissau parce que j'ai écouté une fois le président Mbalo et il semble-t-il qu'il au cours d'un sommet des chefs d'État ou bon certains chefs d'État peut-être vous pouvez chercher à les connaître qui vraiment vantaient le troisième mandat, qui voulaient le troisième mandat et demandaient au même moment de sanctionner les militaires putschistes. C'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir par la force au Mali, au Burkina, et puis bon, dans une certaine mesure en Guinée. Et Malo dit que si on doit sanctionner les putschistes, on doit sanctionner également les présidents qui œuvrent pour le troisième mandat. Voilà. Ça veut dire que ce qu'il a fait la dernière fois s'inscrit dans la logique de sa conception de la politique. Vous voyez, s'il a dit ça, si vraiment il a dit ça à ses pairs, et aujourd'hui, il est battu par son opposition, parce que, bon, il suffisait qu'il sorte quelques tanks dans les rues de Bissau, bon, et tout le monde rentre chez lui, et il a tout à main. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé les populations bissau-guinéennes sont exprimées, et c'est son opposition qui l'a battu, il l'a reconnu. Même au départ, il disait que le chef de file de l'opposition, est-ce que lui va le nommer Premier ministre? À la dernière, il dit non. S'il veut, même le lendemain, lui le nomme. Il n'y a pas de problème. Ça, vraiment, si les choses continuent ainsi dans ce pays, je pense que c'est...
L'espoir est permis.
L'espoir est permis. Parce que pendant longtemps, encore une fois, pendant longtemps, c'est un pays coutumé des coups d'État, de la violence et tout. Mais et cette fois-ci, vous avez vu, les élections se sont bien déroulées. Les gens de la CENI, personne n'a changé de chemise. Le président de la CENI n'a pas changé de chemise dans laquelle se trouvent les bons résultats. Donc il est allé lire, il est rentré chez lui. Personne n'est venu rôder autour de sa maison. Mm-hmm. Donc ça veut dire quelque part que les Bissau-Guinéens sont en train de comprendre que le sang qui coule tout le temps à chaque fois qu'il y a élection, ça n'est pas la peine.
Merci. La belle leçon venue de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissako Ambalo a laissé les unes parler. Et comme le disait Michel, la CENI a proclamé les résultats contenus dans la vraie chemise. Hein, la CENI n'a pas changé la chemise des résultats. Mais tout ça, c'est bien. Nous le saluons. Mais aussi, c'est qu'en amont, l'opposition a travaillé en rang uni pour servir une campagne à la population qui a voté pour l'opposition et pas pour le pouvoir. C'est dire que la belle leçon également doit s'adresser aux partis de l'opposition de chez nous et d'ailleurs d'aller au combat et de faire campagne.
Oui, c'est très important. Après, on vous dira que chaque pays est le fruit ou bien est le résultat de sa propre histoire. Bon, la Guinée-Bissau, c'est pas aussi un pays aussi grand, mais la principale chose qu'il faut retenir comme leçon de ce scrutin, c'est que le président en exercice, le président de la République qui est aux fonctions actuellement, a accepté, reconnu que l'opposition a bel et bien gagné les élections législatives. Donc ça, je crois que c'est une belle leçon de démocratie qu'il va falloir qu'on puisse implémenter dans plusieurs pays. Malheureusement, les pays francophones en Afrique, c'est compliqué de pouvoir accepter ces gens parce que souvent, c'est les pays anglophones, lusophones qui s'inscrivent beaucoup plus dans ce schéma de démocratie avancée. Mais les pays francophones, d'habitude, c'est des résultats qui sont biaisés. On doit faire des marches de protestation, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le dénominateur commun des pays d'Afrique francophone. Maintenant, au-delà de ça aussi, il faut voir par rapport aux différentes constitutions ce qui se dit, parce que dans les pays francophones, la constitution, c'est compliqué. Chaque fois, on change, on rechange, on fait ceci, mais c'est rare qu'on change la constitution, par exemple, dans les pays anglophones, dans les pays lusophones d'Afrique. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'au niveau de l'opposition, aujourd'hui, on doit pouvoir faire un travail dans tous les pays. La Guinée-Bissau a montré la voie, donné l'exemple. Il faut qu'au niveau du continent, on puisse également s'en inspirer.
Merci. Je rappelle que ce n'était pas donné d'avance, mais l'opposition a remporté les législatives en Guinée-Bissau. Le président s'est engagé à respecter les résultats. Il y a quelques années, c'était loin d'être évident en Gambie, quand il y avait un certain dictateur, mais l'opposition s'est également organisée et a battu Yahya Jammeh, qui a dû s'incliner et également.
Malgré qu'il a œuvré pour décapiter cette opposition à l'époque, elle s'est organisée puisque c'est un second couteau qu'il a affronté dans les urnes. Adama Barrow n'était pas... il était quatrième dans son parti.
Il était trésorier,
mais la détermination
de l'opposition. Le parti est mort en détention. Le président est en exil.
Voilà. Donc,
eh bien, nous rappelons ça, ce qui a été possible, ce qui est possible aujourd'hui en Guinée-Bissau pour les législatives, ce qui a été possible en Gambie pour la présidentielle. Est-ce que ça ne peut pas être possible chez nous ici au Togo? That is the question. Chacun prendra sa part de réflexion. Alors, quelle est l'ambiance préélectorale chez nous ici au Togo? Le journal intelligent revient sur cette sortie du ministre Foli Basi Katari qui continue à défrayer la chronique. Quand l'intelligent écrit aujourd'hui, avec la photo de Foli Basi à l'appui, unis cherchent opposition avec toute la polémique qui s'ensuit. Autre journal qui revient sur l'ambiance préélectorale chez nous, c'est Le Changement qui, à la page 3, écrit la dynamique, Monseigneur Kodro, la DMK, qui est toujours là, dénonce l'interdiction qui lui a été faite de tenir des meetings dans la région des plateaux. Et il n'y a pas longtemps, c'est le parti FDE qui se plaignait également que le pouvoir au Togo l'a empêché de mener des concertations avec d'autres partis politiques et organisations de la société civile. Autre article, toujours de Le Changement, c'est une interview de Nicolas Agbo, premier vice-président du CAR, qui accorde cette interview avec un extrait. Nous, c'est Agbo qui parle, nous sommes désormais debout, le parti étant sauvé de justesse de la forclusion et par conséquent de la disparition. Mais nous apprenons que l'autre camp du CAR s'est rendu au siège du CAR il y a quelques jours et a changé les serrures, tout ça là. Ça veut dire qu'un autre feuilleton se joue. Dernier article, et également c'est une interview que publie Le Changement, c'est Jean-Pierre Fabre qui parle du dernier tour de Jéricho. Vous vous rappelez, juin 2012, avec le collectif Sauvons le Togo. Jean-Pierre Fabre revient sur ce dernier tour de Jéricho. Il parle également des prochaines élections au Togo. Il parle également du Sénégal. C'est Ali dans ses journaux. Oulo et Magloire, cette ambiance préélectorale, les partis les uns des autres. Oulo?
Oui, tu as su faire la transition de ce qui se passe en Guinée-Bissau et au Togo. Comme tu l'as dit, moi je dis c'est l'organisation qui fait toute la différence. Mais il faut dire quand même que pour ces deux échéances que nous avons vues, l'opposition a forcément envie d'y participer, mais c'est la manière avec laquelle il faut s'y prendre actuellement qui est en train de prêter sujet à polémique. Parce que quand vous avez des partis à l'interne qui sont en train de se diviser, c'est-à-dire qui sont en train de refroidir leurs militants, quand vous avez certains qui se tirent des balles dans les pieds, c'est-à-dire qui sont en train de mietter leur électorat potentiel pour des adversaires. Et concernant l'interdiction de réunion, je ne sais pas véritablement quel a été le souci, mais c'est dit qu'aujourd'hui, il faut que le climat vraiment soit propice à ce qu'il n'y ait plus ce genre de choses et qu'un parti se dise qu'il a été interdit de manifester, de se réunir avec ses militants, parce que ça ne donne pas une bonne image pour notre pays, ça ne donne pas une bonne image même pour le parti au pouvoir. Je ne sais pas quel est le véritable souci, pourquoi est-ce que ces marches ont été interdites, mais si les conditions ont été réunies par les partis de l'opposition ou elles n'ont pas été réunies vraiment, que nous soyons éclairés et que prochainement ces situations ne reviennent pas, parce que ça fait une mauvaise publicité et c'est plusieurs fois que c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est toujours à cause de l'état d'urgence sanitaire qui n'est pas encore levé. Est-ce que c'est à cause de ça? Il faut véritablement qu'on nous situe et que les gens puissent véritablement battre campagne, se réunir, se mobiliser, parce que ça ne sert à rien qu'on dise qu'on a des échéances futures et que certains partis aujourd'hui continuent de se plaindre. Et après, on dira, voilà, il y a eu des conditions qui n'ont pas permis qu'ils puissent préparer convenablement leur campagne. Et ça ferait effet boule de neige.
Merci. Magloire, l'ambiance préélectorale chez nous ici au Togo?
Non, je crois que l'analyse que moi je le fais sous deux prismes. D'abord, au niveau des partis politiques de l'opposition qui se font remarquer ces derniers temps par des petites guéguerres, des quiproquos, des divisions au sein des partis. Et ce qui m'attriste, c'est que quand vous analysez bien la situation, vous vous rendez compte que chaque camp voulait faire du ministre de l'administration territoriale son parrain, c'est-à-dire que chacun voulait rentrer dans les bonnes grâces du ministre. Et parce que à la fin, c'est lui qui décide si les congrès doivent se tenir, si les gens doivent se réunir au sein de leur parti, au siège du parti et tout. Mais je dis, ben, si c'est vrai que politiquement, il est toujours dit que ben, le pouvoir doit avoir une opposition forte pour évoluer. Mais en réalité, politiquement, le ministre de l'administration territoriale, qui est membre du pouvoir en place, n'a aucun intérêt à vous voir unis et solidaires. Quand vous mettez votre sort entre ses mains, il va mieux vous diviser pour avancer. C'est le message politique que nos amis de l'opposition, parfois, n'arrivent pas à cerner. Et je crois que, petit à petit, on va comprendre que nous sommes sur un terrain politique. Si vous vous offrez sur un plateau d'or, mais l'adversaire vous aura. Ça, c'est de leur côté. Mais du côté du pouvoir également, c'est que je ne comprends pas pourquoi, au XXIe siècle, on puisse encore interdire des partis normalement constitués qui mènent leur activité jusqu'à présent de se réunir. Et Jean, tout à l'heure, dans son développement, mettait des hypothèses. Est-ce que on ne devrait pas en arriver là? Parce que, au même moment qu'on interdit, par exemple, aux partis comme le FDR de se réunir, mais le chef de l'État, qui est le président de la République, c'est vrai même son agenda, c'est, on va pas se le cacher, c'est une pré-campagne qu'il fait, mais glisser sous l'agenda républicain. Et au même moment, on doit permettre aussi aux autres de se réunir, de se préparer. Mais après, on vient dire que ben on n'a pas une opposition forte, mais vous ne permettez pas aux gens...
D'après de ce que tu dis là, la dernière fois, il y a une semaine, le chef de l'État, il a fait délocaliser
le conseil
voilà. des ministres à l'État.
Voilà.
C'est une bonne chose. Mais avant le conseil, il y avait une foule monstre qui était venue l'accueillir. Il s'était offert un bain de foule, alors que ces populations n'étaient pas invitées au conseil des ministres.
C'est ça. C'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom, mais glissée sous l'agenda républicain. Et donc, quand ça y est comme ça, il faudrait que le jeu soit clair, qu'on permet à tout le monde de vaquer librement à ses occupations politiques et les unes vont départager les gens.
Merci, Michel.
Non. Quand nous parlons aujourd'hui de situation pré-électorale, moi, je me sens mal à l'aise.
Et pourquoi?
C'est quand les élections?
Non, c'est en 2023.
C'est bientôt.
C'est quel jour?
Non, là, non. Que je ne veux pas
parce répondre. Que je suis... Non, écoute, je suis mal à l'aise parce que nous avons... Ça fait un peu plus de 30 ans qu'on organise les élections dans ce pays. Quand même, il faut qu'on ait des calendriers républicains. Qu'on sache que à telle date, il y aura élection locale, élection législative, élection
régionale.
Il faut qu'on comprenne ça. On ne peut pas encore être dans... On ne sait pas, bon, quel jour on nous dira d'aller... Non. Il faut... Nous avons une expérience, en tout cas, que ce soit la CENI, le gouvernement en place, ils ont une longue expérience dans ce domaine.
Et nous aussi les médias.
Nous aussi les médias. Ah oui. Ça dit que, bon, on parle de pré-électoral, l'élection c'est quand? Moi, ça, je suis mal à l'aise à parler comme ça. On doit connaître. Regarde, les Sénégalais, leur élection présidentielle, c'est combien là?
2024.
C'est connu, tout le monde sait. Il y a pas, les enfants à l'école connaissent. Il n'y a pas de problème.
Même les bébés étudiants savent.
Oui, ils savent. Bon, nous, on est là, on dit, bon, c'est pré-électoral. C'est quand l'élection?
Cette donc, question, c'est à la CENI et au gouvernement.
Oui, donc, c'est. Et puis, pour terminer, c'est vrai que par rapport aux intentions, je ne connais pas les motifs réels parce que. On peut, nous sommes, si on doit faire les élections, ça veut dire que dans, avant fin 2023, ça veut dire qu'on a encore 6 mois. Bon, si dans 6 mois, si les gens n'ont pas la possibilité d'aller parler à leurs militants, je ne sais pas quelle élection on va faire. Ça veut dire que peut-être que le gouvernement a ses raisons même, que je ne maîtrise pas. Sinon, c'est incompréhensible que nous allons des élections en vue, mais... On empêche les partis politiques.
Merci. Les élections dont nous attendons de connaître les dates, tout comme les membres de la Chambre de commerce d'industrie regardent les cieux depuis quelque temps pour savoir quand ils auront l'occasion de renouveler leur instance. Et les choses se précisent également dans ce sens. Revue de presse avec le journal Le Dialogue, qui à la page 4 écrit « Élection du bureau de la Chambre de commerce d'Institut du Togo, une nouvelle commission électorale a prêté serment ». Flambeau aussi écrit à la page 4 « Chambre de commerce d'Institut du Togo, après les réformes, l'élection en ligne de mire ». Et c'est le sujet phare de la Nouvelle Tribune et l'homme. Tu nous parles aussi de la commission électorale consulaire avec un zoom que tu fais sur tous les membres de cette commission et tu rappelles qu'ils sont 8 et c'est le 8 juin dernier qu'ils ont prêté serment devant la cour d'appel de Lomé dans la perspective des prochaines élections consulaires à la chambre de commerce d'Institut du Togo.
Hello? Oui, je crois que c'est une élection tant attendue par tous les acteurs du secteur privé. Et donc, les choses sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger. Et qu'est-ce qui va se passer après cette cérémonie de prestation de serment des 8 membres de la commission électorale consulaire devant la cour d'appel? Il va falloir qu'on puisse mettre en place le chronogramme électoral pour que les uns et les autres puissent se préparer.
Ah, donc là non plus, on ne connaît pas encore la date.
Non, mais c'est maintenant que la commission électorale consulaire va mettre en place le chronogramme électoral. En fait, c'est la CENI de la CCI. C'est la CENI de la CCI Togo. Donc, ils sont 8. Il y a un qui qui représente le ministère de la Justice, un qui représente le ministère de l'Administration territoriale, un qui représente le ministère du Commerce et un autre qui représente le ministère de l'Économie numérique. Ils sont quatre à représenter le gouvernement au sein de cette commission électorale consulaire et il y a quatre qui viennent du secteur privé, notamment le secteur du commerce, le secteur des activités et d'autres secteurs également de l'industrie qui se retrouvent en tant que membres de cette commission électorale consulaire. De toutes les façons, une chose est certaine, aujourd'hui on a de nouveaux tests à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Cette élection est une élection très attendue par plusieurs acteurs du secteur privé et il va falloir que on puisse tourner la page véritable de notre vie socio-économique parce que il ne faut pas que quand on va à l'international aujourd'hui encore que moi je n'ai rien contre les multinationales qu'on ait l'occasion de parler de toutes les multinationales qui s'installent au Togo qui ne font qu'investir alors qu'on a des Togolais qui ont des sociétés qui rêvent aussi d'avoir la taille de ces multinationales parce que quand vous relisez l'histoire de ces multinationales, c'est des sociétés qui ont commencé en famille, c'est des sociétés familiales au départ qui ont grandi depuis 1950-1960 et qui sont devenus aujourd'hui des mastodontes dans le monde des affaires. Et donc il faut que quand on voyage, quand les opérateurs économiques veulent vendre le Togo à l'international, il faut qu'ils arrêtent de nous parler de ces multinationales qui sont ici et qui investissent, mais qu'ils aient la chance de dire que tel Togolais a telle société qui a telle surface financière qui est implantée dans plusieurs pays du continent.
Merci. Donc, les 8 membres de la commission électorale consulaire ont pour président M. Dindang Kominté. Vivement que cette commission nous dévoile son chronogramme et que nous connaissions la date des élections à la Chambre de commerce. Nous continuons avec une autre élection qui se joue très loin de chez nous, mais qui nous concerne. Parce que nous avons un digne fils du pays qui concourt au siège de l'Organisation mondiale des douanes. Il s'appelle Philippe Kokou Tchodier. C'est jusqu'à maintenant le commissaire général à l'OTR. Mais le 24 juin prochain, et là Michel, la date est connue, bien longtemps. Donc c'est le 24 juin prochain que le sort du prochain directeur général de l'OMD sera connu, Philippe Kokou Tchodier, qui est des nôtres, pas seulement il est des nôtres, mais nous avons des raisons de penser qu'il a les qualités d'être désigné à ce poste. Nous lui souhaitons bonne chance.
Nous lui souhaitons bonne chance. C'est vrai que la campagne a commencé il y a...
Depuis longtemps.
Il y a un temps donné. Et comme tu l'as dit, c'est un monsieur qui a quand même réuni toutes les conditions de son côté. Et il est à même de battre l'Américain. Je pense que son principal challenge, c'est un Américain. Et nous prions, nous souhaitons qu'il puisse quand même le devancer le jour des élections pour que, en tout cas, ce poste, pour la première fois, soit dirigé par un Africain et surtout un Togolais.
Merci. Et le journal intelligent qui parle de Philippe Kokou Tchodier comme l'espoir de tout un continent à ce poste de l'OMD, ce sera le 24 juin prochain. Et comme les Togolais savent le faire, ils vont prier Dieu le Tout-Puissant, également les mânes des ancêtres, notamment d'un certain pays que Michel connaît très bien, pour que la chance soit du côté de Philippe Kokou Tchodier. Chapitre suivant, c'est les mésententes dans la maison entente. Il s'agit de Conseil de l'Entente, la plus vieille des organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest, créée en 1959, avant même l'accession de nos pays à l'indépendance. Et puis, cette entente qui s'illustre plutôt par des mésententes jusqu'à son siège. Jugez-en vous-même par la revue de presse quand Canal D écrit à sa manchette « Conseil de l'entente, Marcel Amontanon dans la merde ». Sauf qui peut, le personnel du secrétariat général exécutif aux abois, Fornia Singbe, le président d'exercice du Conseil de l'entente, et Alassane Ouattara, le pays qui abrite le siège, interpellé. La Nouvelle Tribune écrit lui aussi à la page 4 « Suspension des activités par le personnel, demande de départ du secteur exécutif, crise au Conseil de l'Entente. La situation actuellement très tendue au siège du Conseil de l'Entente à Abidjan, le personnel qui dénonce la gouvernance du secrétaire exécutif, ce personnel qui envisage une suspension des activités dès vendredi 15.
Aujourd'hui
15 juin, le personnel qui demande ni plus ni moins le départ de Marcel Hamon Tanon. Et Flambeau aussi écrit à la page 5, un sale temps pour Marcel Hamon Tanon, mauvaise gestion au Conseil de l'Entente, l'essentiel des dérives reprochées à Marcel Tanon qui porte sur la gouvernance administrative et sociale, la gouvernance financière, la gestion du projet de construction de la tour Entente, les rapports avec les autres organisations sous-régionales. Voilà la revue de presse. Et puis Marcel Hamon Tanon est ni plus ni moins un ancien ministre du gouvernement ivoirien. Quoi, l'homme?
Bon, c'est triste. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce courrier. Et je vous jure que ce courrier, c'est vraiment un gros scandale. Et quand vous avez ce courrier devant vous, signé par le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente, l'ancien ministre togolais des Travaux publics, M. Komla Kadje, qui est également directeur du département infrastructure du Conseil de l'Entente, et d'autres personnalités qui sont en poste dans la capitale ivoirienne, au sein de cette institution, vous dites que vraiment, on a tous les problèmes du monde. Vous voyez, une institution sous-régionale la plus vieille, fondée par Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de Côte d'Ivoire, qui avait un secrétaire exécutif qui est M. Patrice Kouamé, ancien ministre du gouvernement Houphouët, qui est fatigué, qui a demandé à partir à la retraite, et on nomme M. Hamon Tanon, mais depuis 18 mois, rien ne va, selon le courrier qu'on a eu, justement, rien ne va. Donc ce courrier qui a été adressé au président de l'exercice du Conseil de l'Entente, qui n'est autre que le président de la République togolaise, et dans ce courrier, on a relevé plein de dérives, entre guillemets, parce que c'est les mots qui ont été utilisés dans ce courrier, qui font tomber des nues. Vous prenez par exemple, quand le Conseil de l'Entente s'est réuni au Togo, ça se passait dans un hôtel que tout le monde connaît, et un hôtel 3 étoiles. Et donc quand le nouveau secrétaire exécutif a pris fonction, il a dit que moi je ne suis pas à ce stand-in, on déplace les réunions vers un hôtel 5 étoiles. Et donc plus de ressources qui vont être dépensées pendant que l'institution se plaignait lors de ses réunions de n'avoir pas de ressources optimales. Et donc on a commencé les réunions dans cet hôtel 5 étoiles, on logeait toute la délégation dans cet hôtel 5 étoiles, alors qu'il y avait moins de frais au niveau de l'hôtel 3 étoiles qui abritait les réunions. Et dans le courrier, on parle de 300 millions de francs CFA qui ont été dépensés juste pour les voyages du secrétaire exécutif en 18 mois. Je pense que même un chef d'État ne sait pas ça. 18 mois, 300 millions de francs CFA dépensés. Ah, juste
tu connais le budget de voyage des chefs d'État, Elon?
Non, je dis, je pense.
Ah, ok.
Ok, d'accord. Donc, en réalité, je crois que les choses qui ont été relevées dans ce courrier, quand on prend par exemple les recrutements fantaisistes qui se font sans appel d'offres, sans avis de recrutement, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, le président en exercice du Conseil de l'Entente a un dossier chaud sous la main. Il va falloir qu'il parle avec son homologue ivoirien pour voir dans quelle mesure décanter la situation. Merci.
Justement, Oulo, écris que Forn Yassine, président en exercice, et Alassane Ouattara, le président du pays siège, sont interpellés par ce courrier du personnel et pas des moindres.
Oui, évidemment, ils sont interpellés parce que Alassane Ouattara est celui qui a nommé Marcel Hamon Tanon, d'autant plus qu'il était un de ses anciens bras droits, notamment son ministre des Affaires étrangères, et Forn Yassine, qui est président en exercice du Conseil de l'Entente. C'est à ces deux personnalités que le courrier a été adressé parce que, comme Elom l'a dit, les dérives mentionnées dans ce courrier vraiment font froid dans le dos. Quand vous voyez un individu qui se fait octroyer 400 000 francs de primes journalières de représentation, 400 000 francs de primes journalières de représentation, hormis les frais de mission, il y a de quoi réfléchir. Quand le monsieur renvoie un représentant d'un pays pour non-port de cravate, il exclut.
Pardon ?
Il exclut des réunions.
Pour
non-port de cravate.
Ah, donc, ça ne peut pas travailler avec lui.
Voilà. Et il s'est entouré d'un cabinet qu'il a étoffé. Au point où les autres départements sont réduits à la portion congrue. Ils ne font plus rien. Ils viennent juste faire office de représentation. Et le monsieur fait tout ce qu'il a fait seul. Lui seul, il décide du budget. Il voyage quand il veut. Il a recruté un monsieur, un cabinet, pour faire la maîtrise d'ouvrage d'un projet qui engloutit notamment la construction de la tour Entente. Alors que le secrétaire exécutif a la charge de faire cette maîtrise d'ouvrage. Et il est recruté à 1 milliard de francs CFA.
Et on est en train de multiplier les dépenses. Autant de choses vraiment qui sont en train de plonger l'institution dans un gouffre abyssal. Et véritablement, il faut que les chefs d'État, notamment Fonia Singbé, Alassane Ouattara, regardent vraiment ce qui ne va pas. Parce que le courrier stipule que le personnel va arrêter de travailler à compter d'aujourd'hui. Vous savez, ils veulent paralyser l'institution et demandent obligatoirement le départ du monsieur. C'est dire que la crise est véritablement ouverte et il faut que
on peut parler de la crise. Solution. Nous sommes concernés d'autant plus que le Conseil de l'Entente regroupe des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Niger. Et c'est nos États qui contribuent au budget du Conseil de l'Entente. Nous aussi, Togolais, nous avons notre argent dedans. Et si le personnel se plaint comme ça, alors qu'est-ce que nous dirions?
Non, je crois que ce qui se passe au niveau du Conseil de l'Entente doit inquiéter plus d'un. Parce que si à ce niveau, jusqu'à ce niveau de responsabilité, de gestion des affaires de public, on se permet de faire dans la légèreté comme le personnel même du conseil le relève, je crois que c'est grave. Et aujourd'hui on n'a plus assez de temps pour s'apitoyer peut-être sur notre sort. Le plus important, c'est que le personnel a interpellé le président Fornia Singbé, qui est le président en exercice du Conseil de l'Entente, et bien entendu le président ivoirien dont Monsieur Tanon est proche collaborateur. Je crois que les deux très vite doivent se retrouver pour trouver une situation idoine à la situation.
Eh bien, je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Fornia Singbé recevait Marcel Tanon en audience ici. Vivement que peut-être qu'il réagirait. Devant l'interpellation à eux adressée par le personnel. Quand je dis eux, c'est Fornia Singbé et Ouattara. Michel?
Non, moi je pense que le temps est venu pour réformer cette institution.
Du Conseil de l'Entente?
Oui. Le nom même peut être changé. Au moment où aujourd'hui les États s'entendent peu, il faut changer ça. Il faut réformer cette institution.
Non, le Conseil fasse comme son nom l'indique. Voilà. Entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et la Guinée.
Les pères fondateurs avaient raison parce qu'à l'époque, si j'ai une bonne souvenance, c'est que à l'époque, il y avait quand même les relations d'entente entre
Yadema
et ça marchait. Aujourd'hui, où pour des raisons diverses, les États vraiment se regardent en chaîne de faïence et tout. Mais je pense qu'il est temps de réformer cette institution. L'OIA est transformée en IA et je ne sais pas où. Ce n'est pas un Conseil de l'Entente. D'abord, même aujourd'hui, il faut se demander, il faut se poser la question, quel est l'apport réel même du Conseil de l'Entente dans la vie des citoyens même de ces cinq pays ou combien là. Voilà, qu'est-ce qu'ils apportent pour notre bien-être
concrètement dans le sens de l'entente.
Oui, qu'est-ce qu'ils nous apportent?
Oui, et là?
Non, ce que Michel dit, c'est pertinent. Je pense que ce débat mérite d'être soulevé parce qu'aujourd'hui, le Conseil de l'entente existe parce que c'est la doyenne de l'institution. En fait, son rôle, c'est quoi? Le Conseil, au départ, était créé juste pour jouer un rôle économique, mais le rôle a évolué aujourd'hui pour devenir un instrument parce que le Conseil de l'Entente fait aujourd'hui de l'observation électorale et tout le reste. Maintenant, la promotion même des droits, voilà, des citoyens de l'espace d'entente. Mais en réalité, quand vous écoutez ensuite, quand ils viennent en plénière, on parle de beaucoup de choses, le CERFER, par exemple. Le CERFER que vous connaissez tous, qui est un produit du Conseil de l'Entente. Et quand on lit beaucoup de choses, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais en réalité, aujourd'hui, quand vous prenez le Conseil de l'Entente, vous prenez l'UEMOA, vous prenez la CEDEAO, vous avez trois institutions sous-régionales, d'accord, qui n'ont pas les mêmes missions, certes, mais d'un côté qui se chevauchent. Vous comprenez? Donc, il y a véritablement un souci parce qu'il faut que la conférence des chefs d'État qui préside le Conseil de l'Entente puisse véritablement s'asseoir pour voir entre lui et moi, le Conseil de l'Entente, la CEDEAO, quelle est la stratégie qu'on doit tracer? Parce que la CEDEAO, c'est beaucoup plus un instrument politique qu'économique, même si on dit communauté des États d'Afrique, communauté économique. Mais c'est beaucoup plus un instrument politique économique. Non, il faut qu'on soit clair. Regardez la libre personne.
Beaucoup plus politique.
Politique. Et la libre circulation des personnes et des biens seulement. Ouais, c'est économique, hein. Mais on n'arrive pas à régler ça. Mais quand il y a un manquement dans un pays, tout de suite, il y a un communiqué, on envoie une émission, on envoie tous les Bataclans. C'est beaucoup plus un instrument politique. Donc, le Conseil de l'Entente est véritablement réformé.
Nous continuons avec les droits de l'homme, les droits humains ici au Togo. Et le journal Intelligent nous rappelle qu'il y a quelques jours, la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public son rapport d'activité 2022, rapport au terme duquel on découvre que la CNDH a réalisé des activités de promotion en lien avec les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs, les droits catégoriels, et la CNDH qui a instruit des requêtes aux fins de faire cesser des violations de droits de l'homme et faire également procéder à des réparations. Certains de ces droits n'ont pas pu trouver une solution auprès de nos tribunaux et ceux qui se sentaient concernés ont saisi la Cour régionale de la CEDEAO, laquelle Cour s'est prononcée dernièrement, nous en parlons, et Flambeau revient là-dessus, énième condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO, la question des droits de l'homme. Magloire, vous illustrez votre article avec le ministre qui est en charge des droits de l'homme dans notre pays, Christian Elinam Trimoua.
Ah oui, bonjour à lui au passage.
Il nous écoute, s'il est au pays.
En tout cas, on l'espère qu'il soit là parce que c'est important ce sujet. Vous savez, c'est vrai que quand on parle des droits de l'homme, on se dit que voilà, depuis un moment, du chemin a été fait. Et beaucoup plus dans les discours, on sent aussi que le Togo a ratifié à plusieurs instruments plus internationaux, au plan national même, la législation se corse au jour le jour. Mais en vrai, il y a des événements qui se produisent, qui se succèdent d'ailleurs, qui donnent l'impression qu'en réalité, à part le discours qui contient, on a du mal véritablement à respecter les droits de l'homme dans ce pays. Si on s'en tient justement au dernier cas qui est donc la suspension ou la condamnation du Togo par la Cour de justice de la CEDEAO, on se dit que c'est pas la première fois. Vous remontez dans les temps, il y a au moins une belle brochette de 10 condamnations du Togo par la Cour de justice de la CEDEAO. Et jusque-là, ça semble ne pas émouvoir quelqu'un ou alors le sommet de l'État pour agir et changer de paradigme. Parce que on se dit, mais telle que la situation est aujourd'hui, il faut quand même que le Togo essaie quand même de changer de paradigme. Il faut que le Togo sauve son honneur. Parce que vous savez, le Togo fait partie, ou du moins le chef de l'État, l'ancien général Yadema, fait partie des pères fondateurs de la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO est un instrument de cette même CEDEAO. Et nous, au Togo, on ne peut pas se permettre chaque année presque de se faire taper sur le doigt comme ça parce qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Entre autres violations des droits de l'homme, on va peut-être les citer pêle-mêle. Il y a l'affaire Pascal Boudjona, l'affaire Kwachanya Sigbeko accusé, il y a l'affaire Ametepe Kofi, il y a l'affaire des coupures de l'Internet en 2017. Il y a plusieurs affaires et on se dit, mais comment se fait-il que chaque année presque on nous condamne à payer des dommages et intérêts aux gens, mais ça ne meut personne. Plus les années passent, plus on corse notre position dans la violation des droits de l'homme. Même si on prend la situation des centres, des prisons au Togo, les rapports les plus récents disent que la question de la surpopulation carcérale est d'une évidence notable au Togo. Vous prenez la prison civile de Tchévié, par exemple, c'est la prison la plus surpeuplée au Togo. Pour, par exemple, une place de capacité d'accueil de 56 détenus, la prison civile de Tchévié a aujourd'hui, comprend plus de 350 détenus. Et ça, les rapports internationaux même le disent. Mais ça, on ne change vraiment pas ce qu'on doit changer. Mais on se dit, si tel est le cas, on ne fait pas du bien à l'image du pays parce que, comme je l'ai dit, même au sein de la Cour, il y a des Togolais qui travaillent là-bas. Le médiateur de la République actuelle a déjà officié en tant que, je crois, président de cette même Cour. Je crois que l'actuel greffier même de la Cour est un Togolais. On ne peut pas avoir ses compétences dans ces instances internationales et continuer toujours pas violer les droits de l'homme. Nous disons que le débat, il est lancé. Il faut que on mette balle à terre, reposer les vraies questions pour essayer de polluer l'image du pays. Pour
l'image de notre pays à l'extérieur. Nous terminons avec cet accord de financement qui va consister au désenclavement de certaines localités du Togo. Le dialogue, c'est le confrère qui en parle. La France qui s'engage à financer la construction d'un total de 21 ponts. Ouaral est vainqueur. Nous écrit à la page 2 que toutes les régions sont prises en compte dans ce programme avec une enveloppe de 51,5 milliards de francs CFA pour leur réalisation. Michel?
Oui, je pense que c'est un accord de financement qui est intervenu entre le ministre Ouellet de l'économie et des finances et l'ambassadeur de France au Togo. Et au vu de cet accord, il y a, comme tu l'as dit, 51,5 milliards de francs ça, qui seront débloqués pour la construction de 21 ponts répartis pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Étant donné que certains de nos infrastructures, certains ouvrages sont en état de déliquescence, il va falloir quand même faire en sorte que les ponts jugés critiques, parce que il n'y a pas longtemps, il y a un incendie sur un pont à la hauteur de la préfecture de Falgou. On a eu à faire une déviation. Nous avons la malchance que nous n'avons qu'une seule route internationale qui relie en
tout cas l'épine dorsale même du Togo.
Et quand il y a un souci, vous imaginez l'affaire les inondations au temps où le port d'Amapapé avait cédé. Vous voyez ce que nous avons eu comme perte en termes d'économie. Et donc ces ponts là qu'on doit construire doivent aider quand même à relier les localités, surtout permettre économiquement d'écouler les produits agricoles, de permettre surtout aux populations d'aller se soigner. Vous savez, il y a des zones où s'il y a une femme enceinte et si l'accouchement n'est pas facile, il faut l'évacuer d'un point A à un point B. Et le plus souvent, il y a des ouvrages qui n'existent pas partout. Et même s'ils sont là, ils sont en état un peu défectueux. Cet accord vraiment vient à point normé parce que ça s'inscrit dans la ligne droite de la volonté du gouvernement de faire en sorte que les lignes, les zones, en tout cas presque toutes les zones soient interconnectées.
Merci, merci. Nous terminons avec cette activité qui a eu lieu au siège du Parlement hier, quand l'Assemblée nationale a organisé cette conférence. Une partie était en présentiel, l'autre en virtuel, qui a porté sur le temps que je me retrouve. Oui, l'engagement. Il s'était agi de la mise en application effective de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. L'engagement des Nations Unies et de l'Assemblée nationale du Togo. Cette activité a eu lieu. Nous serons le cas de suivre ça dans les journaux, écrits, parlés, même télévisés, d'un peu partout. Et toujours pour le terrorisme, le Togo qui a adhéré à une organisation contre le Daesh au plan international. C'est tout ça pour dire que les terroristes nous menacent et nous nous organisons pour parer à tous ces risques-là et retrouver la paix, la quiétude. Mais malgré ça, un autre semble ne pas se sentir à l'aise chez nous. Il s'agit de Damiba, l'ancien putschiste du Burkina, qui est chez nous, qui apparemment veut rentrer chez lui au Burkina. Et Oulo?
Oui, ça, Damiba est en exil depuis octobre 2022. L'ancien locataire du palais de Kossiam était hôte du Togo. Vous savez que depuis le putsch, il a fallu l'exfiltrer pour qu'il ne soit pas pris par les nouveaux dirigeants du Burkina Faso. Et lundi dernier, selon les révélations d'un journal burkinabé, il a adressé un courrier au chef d'État actuel du Burkina, demandant à rentrer au Burkina et que les conditions soient facilitées pour qu'il puisse retrouver sa famille d'ici quelques mois.
La leçon qu'on peut en tirer, Michel, c'est que l'exil est rarement doré et il semble qu'on ne peut être si bien que chez soi. Oui. Damiba, on lui a trouvé une belle villa avec toutes les commodités. Oui. Mais
non, son âme n'est pas dans cette villa. C'est son corps qui est son physiquement, il est là-bas. Vous savez, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que tous les chefs d'État en Afrique travaillent pour qu'un jour, quand ils ne seront pas au pouvoir, qu'ils puissent aller jouer sur les terrains comme Yayi Boni, qu'ils puissent aller.
Chanter, aller
au cinéma et il n'y a pas de problème. Mais on est désolé, hein, c'est ça.
Merci Michel, mais j'espère que ton âme est dans ce studio. Merci beaucoup, c'est l'heure de la pause. 93.5. Eh bien, c'est parti avec les deux numéros à votre disposition, le 22-21-30-74, le 91-36-63-75. Avec vos questions, vos commentaires. Déjà un premier auditeur qui s'annonce.
Allô.
Ah, allô.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
Oui. La question que moi je me pose, est-ce que le conseil de l'entente là, ça vaut mieux de rester encore, puisque depuis leur création, ça avait de valeur. Mais actuellement, ces cinq pays se trouvent encore dans la CEDEAO. Or que la CEDEAO ne vaut plus rien. On dit que une circulation des personnes de biens. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à traverser librement les frontières. Mm-hmm. Donc, le conseil de l'entente, moi, je ne vois pas son existence. Hein.
Merci. Bonne journée. C'est votre droit de le dire. Alors, que vaut aujourd'hui le conseil de l'entente? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Il faut la réformer ou carrément prendre une décision courageuse? Nous invitons les chefs d'État à cet effet. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Merci pour votre esprit. L'émission et le débat que vous avez est très édifiant pour nous.
Merci, ça fait plaisir.
J'ai juste une petite inquiétude, c'est à propos de notre position en général.
Oui.
Et je m'excuse de le dire, en réalité, ces messieurs se positionnent comme des gens qui, normalement, sortant de notre conférence nationale souveraine, devraient peut-être se partager des postes de responsabilité pour assumer des fonctions dans notre pays. Malheureusement, eux-mêmes n'ont pas la clé pour rester unis et faire quelque chose de bon.
Mm-hmm.
Et la seule chose, et cette chose leur porte préjudice jusqu'à aujourd'hui, côté organisation, côté motivation. Mais il est quand même très bon que le peuple comprenne finalement que nous avons à prendre en charge notre destinée. On ne peut pas les remettre entre les mains d'individus aussi inconséquents qui nous font tourner en rond depuis des décennies jusque-là.
Mm-hmm.
Donc la démocratie étant quelque part le gouvernement du peuple par le peuple, je suis malade de voir mon peuple chloroformé à regarder ces individus se casser la pipe alors que nous avons des échéances devant.
Merci. C'est monsieur, s'il vous plaît.
Et Komlan.
Komlan, vous nous appelez de... Depuis
Kanikopé.
Merci à vous, Komlan. Mais je peux vous dire que moi qui approche un peu l'idée de l'opposition, je peux vous dire une chose, il n'est pas toujours facile d'être opposant sous nos cieux ici.
Oui, il n'est pas souvent d'être un leader.
Oui.
Et c'est pour ça que des gens qui veulent prétendre faire cette chose, soit des individus de n'importe quel bord qui viennent se...
Oui, merci.
Ils n'ont même pas... Ils font de la...
L'ami Komlan, on vous dirait également que la critique est facile, mais l'art ne l'est pas tout autant. Le suivant, bonjour. Ah, il a trop attendu, il est parti, mais il va revenir quand il saura que c'est Michel qui est la manette. La preuve, il est déjà de là. Bonjour, l'ami.
Allô.
Oui.
Georges.
Georges. Ah, ça fait un petit moment, là.
Oui, ça fait un moment, là. Oui, on sait que les opposants sont désorganisés au Togo, mais que les gens ne perdent pas de vue que nous avons un pouvoir qui ne veut pas donner le pouvoir. Qu'on fasse des élections libres et transparentes comme en Guinée-Bissau. Vous allez voir. Que les gens ne se trompent pas. Il faut lire entre les lignes. Ils font de leur mieux, nos opposants. Même s'ils aillent aux élections en rang dispersé, si les élections sont transparentes, ils vont gagner. Ils ont toujours gagné.
Oui.
Bonne journée à vous.
Merci à vous, Georges. Georges qui passe le micro au suivant. Bonjour.
Oui, bonjour, mon frère Sassou Gaou. Bonjour, le plateau.
Ça, c'est le Benoît Dagouza.
Oui, grand frère. L'opposition est dispersée. C'est normal. Vous savez, quand vous voyez le président de la République aux dernières élections présidentielles, il a obtenu 70%, et on interdit en ce moment ceux qui ont eu moins de 2% de voter à leur occupation de politique. Et alors que le chef de l'État lui-même va dans les lieux avec des bains de foule, je ne sais pas si le président de la République, le Parti uni veut rappeler les 100%. Si vraiment les élections sont transparentes, Togo et le Parti uni fait que vraiment ils gagnent transparemment les élections, ils laisseront les opposants faire leur meeting et on verra.
Merci. Mais si c'est comme je ça, pense que Michel avait tout dit, hein, que la CENI organise bien les élections, que le pouvoir politique laisse les urnes s'exprimer, que chacun en amont travaille avec ses campagnes pertinentes, le peuple arbitrera.
Monsieur Stas,
oui.
Dans quel, par exemple, l'élection présidentielle au Sénégal, on sait la date, non? On sait que c'est en décembre, non?
Oui.
L'élection régionale, c'est quelle date?
Nous cherchons, vous et moi.
Et vous croyez que les choses...
Malgré ça, Benoît Dagoué, je demeure optimiste. L'espoir est permis. Merci beaucoup, Benoît Dagoué. Le suivant, déjà, il va revenir lui aussi. Il est là. Oui, l'homme, dans certaines situations, on sent un certain pessimisme, voire un certain fatalisme dans certains esprits. Mais un auditeur vient d'entrer à la ligne. Bonjour.
Oui, allô, Sasgao.
Oui.
Bonjour.
Bonjour à vous, c'est monsieur. Allô? Ah, Chadeux, il est parti. Un autre prend la place. Oui, et l'homme, je disais, certains laissent exprimer trop de pessimisme, voire du fatalisme.
Oui, bon, vous savez, les gens ont accumulé beaucoup de choses. Les gens sont frustrés par beaucoup de choses. Il y a eu des faits qui se sont succédés.
Oui.
Quand vous prenez, par exemple, le dernier rapport Covid-19 qui est resté au travers de la gorge de beaucoup de Togolais, hein, peu importe l'obédience politique, je crois quand même que les gens sont vraiment, vraiment estomaqués de la façon dont les choses se passent. Mais il faut qu'à un moment donné...
Nous devons transformer tout ça là en défi à relever.
Oui, effectivement,
merci.
C'est ça.
Merci. L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Ah, c'est notre cher ici. Oui.
C'est les mêmes, quoi. Les mêmes qui ont le courage d'appeler, de se ruiner en téléphone. Et moi, je veux dire que l'opposition togolaise, et ça se compte sur le tout ça, est digne au Togo. C'est-à-dire l'opposition est digne au Togo. Et elle ne jouera pas au clown. Et dans ce livre, les anciens présidents d'Afrique et tout, qui nous ont tous fait du mal. Ils nous ont tous fait du mal, quoi. Et elle ne jouera pas à ce clown-là. Elle n'a pas ce temps. Et puis moi, je leur dis bravo, parce qu'ils ne bravent pas leur vote avec des chars depuis 60 ans. Ce n'est pas eux qui braquent leur vote. Et puis, je vais vous demander de créer votre parti, hein, parce que vous discutez bien, vous parlez bien, vous pouvez nous gouverner valablement, quoi. Hein, vous supplantez aux opposants 100%, là,
non,
pour rien.
Si à chacun son rôle, les opposants s'opposent. Nous, notre travail, c'est de vous informer au jour le jour et de vous parler des exploits, mais également des mésaventures des uns des autres.
Allô?
Oui?
Allô? Le Conseil de l'Entente, vous en avez parlé.
Oui?
La CEDEAO, tous ces organismes, machin, même l'Union européenne, qu'on n'entend plus là, avant de l'entendre encore ce matin, et qui nous promet des réformes démocratiques tous les 5 ans pour aller aux élections et tout, tout ça là, c'est du bouge, c'est du mensonge. Moi, je veux dire que c'est du mensonge. Et même nos constitutions importées, puisque personne en Afrique ne respecte pas ces constitutions. Oui. Donc, c'est que du mensonge, tout ça là.
Oui, notre travail ici, c'est de respecter notre propre constitution et chaque institution fasse le travail comme il se doit.
Tout ça.
Ok.
Mais
je demeure optimiste. La tâche est énorme, mais nous y arriverons. Le suivant en ligne, bonjour.
Oui, nous aussi, notre optimisme commence à durer.
Oui.
nous avons été longtemps optimistes, beaucoup, peut-être même d'autres ont été optimistes bien avant vous.
Mm-hmm.
Voilà, c'est Johannes.
Johannes, oui.
C'est vrai, vous avez dit, il faut que c'est à la CENI de proclamer les résultats.
Comme d'abord, ça de faire. Bien organiser les élections.
Voilà, et de bien proclamer les résultats.
Oui.
Les vrais résultats.
Qui sont, vrai, dans, vous avez dit. Qui sont dans la bonne enveloppe.
Voilà.
Oui.
C'est vrai, vous avez dit ça. Mais vous avez aussi dit que il faut que l'opposition s'organise pour battre le régime dans les urnes.
Oui.
Et je ne pense pas que moi, c'est que je suis peiné à chaque fois qu'on parle, qu'on dit qu'il faut que l'opposition soit organisée, il faut que l'opposition soit unie.
Moi, non. Johannes, nous n'avons pas parlé d'opposition unie. Nous avons dit que l'opposition s'organise avec des termes de campagne pertinents et aller devant l'électorat. C'est ce que nous avons dit. Nous avons parlé de bonne organisation en amont.
Oui, sauf que le problème que nous avons au Togo n'a rien à voir avec ça. C'est bien, c'est une bonne recommandation, mais ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ceux qui disent ça, moi je leur demande toujours, est-ce qu'ils pensent que Barack Obama serait au Togo, qu'il serait une fois devenu président dans sa vie? Si on peut répondre à cette question-là, on peut savoir réellement où se trouve le problème du Togo. Emmanuel Macron serait au Togo, ce monsieur ne serait jamais président dans sa vie. Je ne sais pas si en Afrique, c'est l'opposition togolaise qui est la plus mal organisée ou quoi. C'est juste que on cantonne les mêmes partis dans l'opposition depuis des années. Je vous dis que Unir serait un parti de l'opposition pendant 10, 15, 20 ans, mais vous allez voir ce que ce parti deviendrait. Donc,
bien que réellement, Dieu nous batte vie, hein, nous pourrions voir beaucoup de choses. Le dernier auditeur aujourd'hui. Alors, le tout dernier auditeur aujourd'hui. Merci, hein, c'est des débats pertinents, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais ce qui est quand même évident, c'est le Togo, hein, pour qui nous concerne nous tous. Oui, dernier auditeur, bonjour. Allô, oui,
bonjour, ça, c'est le dernier de la classe.
Ah, Didier.
Jésus a dit les premiers sont les derniers sont les premiers. C'est la Bible qui le dit. Bon, ça, moi je pense que c'est pour faire un coucou à l'opposition togolaise. Je pense que c'est l'opposition la plus sérieuse en Afrique, parce que être opposant au Togo, c'est quand vous avez déjà fait votre enfer sur la terre. Donc, quand vous allez chez le bon Dieu, vous allez directement parler. Laissons ce que nous faisons là. Nous faisons nos business et puis on vient parler à la radio. Après, on croit aller faire nos business. C'est autre chose. L'opposition au Togo, c'est pas facile. Non, c'est les gens que moi je respecte le plus même. C'est-à-dire, c'est pas facile d'être opposant. Vous voyez ce que, au même moment, le pouvoir les empêche de travailler, au même moment, d'autres les critiquent, ils ne font pas. D'autres vont aller faire les meetings, le pouvoir les empêche. Et d'autres viennent à la radio, les critiquent, bon, vous n'allez pas, vous ne faites pas le travail, vous ne faites pas quoi. Mais les élections, on n'a pas besoin d'être organisé pour aller aux élections. Que la CENI organise bien les élections, soit un arbitre et non un partisan. Faut que moi qui ai voté à l'OMS, je sache que mon enveloppe est ma voix est comptabilisée. Comment est-ce que sur ce que ma voix est comptabilisée si on refuse d'afficher, de proclamer le bureau par bureau de vote? C'est ça le problème du Togo. C'est l'organisation. C'est pourquoi moi j'encourage M. Tadja, nous, le jour des élections là, faut que nous-mêmes on circule dans les trucs là, on publie dans les bureaux, si l'État va nous arrêter. Je vous remercie.
Merci à vous, hein, à Didier, à Benoît Dagoué, à Johannes, à Georges, à Comlan, à Papa Sordiné. Je ne sais pas si j'en oublie. Ah oui, à notre ici et bien d'autres. C'est comme ça, le débat pluriel, débat riche, contradictoire, mais avec pour finalité d'aller à un Togo réellement émergent qui nous donne plaisir à vivre dans ce pays. Tour de table pour la conclusion. Et l'homme?
Bon, j'ai pas grand chose à dire. C'est l'occasion aussi de rappeler que nous devons, en tant que journalistes, vivre de notre métier. Et ceux qui, à chaque parution, demandent les PDF gratuitement, là, il faut qu'ils arrêtent ça. Moi, c'est un coup de cœur, c'est un coup de gueule plutôt. Il faut que ceux qui nous harcèlent, PDF, là, ils arrêtent ça, franchement.
Mets ton journal en ligne et tu indiques le prix pour avoir de la nouvelle tribune en PDF.
Non, même si vous mettez en ligne, c'est pas ça la solution. Quelqu'un va acheter à 250 et distribuer à 1000 personnes. Vous comprenez? C'est pas ça la solution. Parce qu'on est en train de commercialiser, on est des entreprises, on n'est pas des... Mais vous demandez un PDF, vous mettez en ligne, quelqu'un l'achète à 250, à 500, il distribue à 100 personnes gratuitement. Ça circule de WhatsApp, de téléphone en téléphone.
Et ce faisant, on nous appauvrit.
Ce n'est pas ça la solution.
Après, c'est pour dire que la presse ne fait pas bien son travail.
Aidez-nous à mieux vous servir. Ceux qui sont à la maison, à chaque parution, ils demandent PDF, PDF là. Mais c'est du travail intellectuel. C'est de l'exercice intellectuel. C'est de l'électricité, c'est de la connexion Internet. C'est beaucoup de choses. C'est des frais d'impression. C'est beaucoup de choses.
C'est un bureau, c'est un personnel.
Et tout le reste. Et donc, il faut que les gens nous collent la paix avec cette histoire de PDF.
Et puis, le journal nous coûte que 250, hein, la moitié d'une bouteille de pils. Ou le Jean Legrand.
Oui, moi je vais rebondir un peu d'abord sur ce que les gens ont dit par rapport à l'opposition. Moi je dis ceci, pourquoi vous voulez qu'un enfant né aux États-Unis, dans les conditions qu'il y a là-bas, et un enfant né dans un fin fond de Yarkmanga, affronte avec la même force un examen? C'est pas possible. C'est pour dire quoi? Les oppositions sont par rapport au contexte établi dans chaque pays. C'est vrai qu'au Togo, le contexte est un peu plus compliqué. Mais maintenant, par rapport à ce que nous avons en face de nous, quitte à l'opposition de changer de manière, de fusil d'épaule, pour pouvoir affronter celui qui est en face d'eux. Moi, j'ai dit par exemple, dans les années 2020, à l'élection présidentielle, les gens sont revenus avec le même discours pour dire non, le système a duré, le système a duré. Regardez par rapport à la tranche électorale en ce moment. Quels sont ceux qui devaient voter le plus? Est-ce que c'est les gens de plus de 45 ans qui ont vécu les difficultés d'avant ou c'est une jeunesse? Est-ce que ce langage-là parle à la jeunesse actuelle? Non! Cette jeunesse parle le langage Internet, parle le langage emploi, parle le langage entrepreneuriat. Trouvons ces mécanismes-là.
Cette jeunesse parle le langage intelligence artificielle.
Artificielle. Mais on ne peut pas revenir avec ces concepts désuets aujourd'hui qui n'ont plus leur place. Faut que l'opposition, en ce sens qu'on dit que l'opposition doit se réformer. Maintenant, pour embrayer avec ce que l'homme dit concernant la presse, moi j'en ai marre de ces ministères qui envoient des invitations à des journaux et on paye 5000 francs comme couverture médiatique à un journal. Comment est-ce qu'on veut que ce journal se professionnalise, paie ses taxes, paie ses impôts? Non, il faut qu'on arrête. Vous avez demandé que les médias se professionnalisent. Mais on va se professionnaliser avec 5000 francs comme déplacement. C'est un coup de gueule, il faut qu'on arrête.
Ce que vous dites, c'est intéressant. Et je vous rappelle que depuis quelque temps, la TVT fait payer ses reportages à toutes les institutions, même au ministère.
Oui.
Il va falloir que les médias privés aussi élaborent une grille de tarifs. Et quand un ministère vous appelle pour un reportage, vous lui brandissez le tarif.
Caf seulement le ministère, toutes les institutions et toutes les sociétés privées.
C'est regrettable que de grands ministères...
Allez d'abord vous entendre autour d'une grille à communiquer à ceux qui sollicitent vos services. C'est bon?
Ça peut aller, mais c'est que ceux qui nous demandent.
Ça va aller. Ma gloire.
Non, je crois que mes patrons.
Michel va conclure.
Mais on va laisser la parole. Je suis en bon chaton.
Voilà. Mes patrons ont déjà évoqué, côté aspect média, il faudrait qu'on nous aide à grandir. Maintenant, je voudrais interpeller la CENI. Vous savez, nous sommes entre Togolais et rien ne presse. Surtout qu'on n'a pas encore fixé la date. Vu tout ce que. Les dates. Vu tout ce que nous avons vu comme dysfonctionnement de Lomé à Dapaon, je crois qu'une période transitoire ou une nouvelle période d'inscription ne ferait pas du mal à un Togolais. Donc c'est un appel.
Nous allons disposer d'un fichier électoral qui ne souffre aucunement de contestation depuis la base.
Exactement. Voilà un peu l'appel que moi j'aimerais lancer à la CENI.
Le Tchodjo?
Oh, moi, c'est peut-être par rapport à ce que tu disais, que l'opposition s'organise.
S'organise mieux.
Mieux, parce qu'on ne gagne pas les élections, on ne gagne pas les élections par des incantations. Il faut travailler, il faut s'organiser à la base. Et j'ai cru entendre quand il y avait un engouement pour le recensement à Lomé, certaines voix disaient non, c'est pour novici que les gens se bousculent, les femmes. Je dis mais oui. Ça peut être vrai. Mais si les gens le précisent, c'est-à-dire la carte d'électeur, maintenant, il suffit que les partis politiques aient un bon discours pour amener ces gens-là à faire usage de leur carte d'électeur le jour de vote. C'est une question de discours.
Parce que ce que nous avons vu en 2018, si aujourd'hui les partis qui se chamaillent, s'ils donnent encore la chance à ces partis moustiques, dont certains nous ont fait voir de toutes les couleurs, à l'Assemblée nationale durant les 5 dernières années, je suis désolé.
Merci, merci. Michel avait tout dit, hein, comme en Guinée-Bissau, que le pouvoir politique laisse le jeu électoral se jouer, que notre CENI prenne ses responsabilités dans l'organisation des scrutins depuis l'amont jusqu'en aval. Et Michel a dit, le jour-là, il faut que le président proclame les résultats qui seront dans la bonne chemise, qui ne changent pas de chemise. Et puis nous avons complété en amont, il faut que les partis, notamment de l'opposition, s'organisent mieux en affinant un discours qui s'adapte au contexte et à l'électorat aujourd'hui. Depuis 90, quel est le pourcentage des électeurs du Togo? Ils ont quel âge? Quelles sont les préoccupations de ces jeunes Togolais? Il faudra que à l'opposition, on trouve des discours dans ce sens et qu'on s'organise en rang uni plutôt qu'un camp d'un parti qui fait des interviews dans la presse et dans le même temps, l'autre camp va assiéger le siège pour changer les serrures. Quel est le message qu'un parti comme ça lance à l'opinion? Et puis je voudrais m'adresser à nous.
Et qu'un parti comme ça aspire à gouverner.
Oui. Et puis ceux de nos compatriotes qui cèdent un peu trop au pessimisme, voire au fatalisme. Certaines personnes, quand on les écoute, on se demande, on se dit que ce n'est plus la peine. Mais quel est l'homme qui n'a plus d'espoir? Que vaut cet homme-là? En tout cas, ce n'est pas moi. Je demeure optimiste et je sens que cet optimisme va être inclusif. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain vendredi à 11h. Mais je voudrais vraiment féliciter deux groupes. D'abord Michel, depuis hier, Jérôme est un peu souffrant. Et Michel, hein, il manie tous les boutons. C'est peut-être parce qu'il s'appelle un Tobenga qu'il arrive à faire ça. Et puis chapeau à vous également. Aujourd'hui, vous avez fait un effort de synthèse, ce qui nous a permis d'aborder beaucoup de sujets. J'espère qu'il en sera ainsi le jeudi prochain, n'est-ce pas, Magloire?
Amen.
Merci beaucoup.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.